Il est encore midi et demi sur France Culture. Bonjour Thomas Cluzel.
Bonjour Olivia, bonjour à toutes et à tous. L'Iran a ordonné hier la restriction de l'accès à l'Internet en prévision des manifestations organisées aujourd'hui en hommage aux personnes tuées lors des contestations le mois dernier.
Les membres du Likoud de Benjamin Netanyahou ont commencé à voter ce matin pour désigner leur nouveau chef de file.
Oui, une primaire réclamée par le principal rival du Premier ministre israélien, Gideon Saar, bien déterminé à lui ravir le parti.
Le Burkina Faso, de nouveau, frappé par l'hydre islamiste.
Hier soir, une dizaine de militaires ont péri dans une embuscade à une soixantaine de kilomètres du lieu de l'attaque djihadiste perpétrée la veille et qui a fait 42 morts. En France, la loi d'orientation des mobilités a été promulguée ce matin au journal officiel. Ce texte, adopté le mois dernier par le Parlement, tend à améliorer les déplacements au quotidien des Français, tout en intégrant l'enjeu environnemental. Enfin, comme chaque jeudi, l'invité politique de la rédaction aujourd'hui, Jean Messia, membre du bureau national du RN, délégué aux études et à l'argumentaire. Et puis à 12h55, Olivia, ce sera la grande table des idées.
Elle est convaincue que plutôt que de s'en méfier, il faudrait d'abord apprendre à comprendre ce monde pour pouvoir le maîtriser. Elle est spécialiste des algorithmes et elle publie De l'autre côté de la machine aux éditions de l'Observatoire, la numéricienne Aurélie Jean. Et notre invitée, elle sera avec nous dans une vingtaine de minutes.
Merci et à tout à l'heure. C'était il y a un mois, presque jour pour jour, après plus de 10 jours de blackout imposés par les autorités et avec le rétablissement de l'accès à l'Internet, les Iraniens se réveillaient abasourdis en découvrant l'ampleur de la sanglante répression des manifestations contre la hausse du prix de l'essence. Un réveil brutal dès lors que sur les réseaux sociaux s'affichaient soudain les vidéos des violences, les photos des victimes et les témoignages des familles de défunts. Or voilà qu'hier, l'État, réagissant à de nouveaux appels à manifester ce jeudi, en hommage justement aux personnes tuées lors de cette contestation, a décidé à nouveau de restreindre l'accès à l'Internet. Les précisions de Nadine Epstein.
Ce jeudi marque pour les familles endeuillées par la répression policière le 40e jour du décès de leurs proches tués. Une date que les Iraniens entendent honorer en descendant dans les rues. Pour limiter les appels à manifester, les autorités ont bloqué les accès aux réseaux sociaux. L'Iran explique que des voyous liés aux exilés aux pays ennemis, les USA, l'Arabie Saoudite, Israël, incitent à la contestation sur les réseaux sociaux. Ceci expliquant la coupure du net. Cette restriction sur l'accès à Internet ne concerne que le trafic international sur les téléphones mobiles, précise le ministère iranien des télécommunications et dans 5 provinces. D'autres Iraniens parlent de perturbations depuis hier à Téhéran et dans d'autres parties du pays. Les autorités iraniennes doivent encore divulguer le nombre de victimes depuis le début des protestations mi-novembre. Pour l'instant, elles n'évoquent que 5 tués, 4 policiers et un émeutier, et des dizaines d'attaques et d'incendies de stations-service, commissariats, centres commerciaux, mosquées et bâtiments publics. Amnesty International avance le chiffre d'au moins 300 morts et dénonce une horrible tuerie. Dans une centaine de villes, le 15 novembre, les Iraniens ont défilé pour s'opposer à une augmentation du prix de l'essence. Très vite, le pouvoir iranien a affirmé avoir rétabli l'ordre, mais à quel prix? Le nombre de pertes humaines risque encore de grimper si les manifestations d'aujourd'hui se transforment en confrontation avec les forces de sécurité qui n'hésiteront pas à tirer sur les gens.
5 combattants pro-iraniens ont été tués hier soir dans des frappes aériennes sur la ville syrienne de Boukama, à la proximité de la frontière avec l'Irak, dans la province de Deir ez-Zor, laquelle abrite aujourd'hui plusieurs acteurs du conflit syrien. D'un côté, les forces du régime de Bachar al-Assad, engagées avec l'appui de forces iraniennes, et puis de l'autre, une alliance de combattants kurdes et arabes soutenue par la coalition internationale anti-djihadiste. Alors l'origine des frappes de la nuit dernière reste encore ce matin indéterminée. Pour autant, et sans préjuger d'une trop grande similitude, on rappellera simplement que ces derniers mois, plusieurs raids israéliens ont déjà frappé l'extrême est de la Syrie. Par ailleurs, dans le sud de la province d'Idlib, cette fois-ci dernier bastion de l'insurrection anti-Assad, les bombardements de ces 15 derniers jours auraient déplacé près de 130 000 personnes, selon les Nations Unies. Cette offensive participant du vaste mouvement de reconquête entamé par le régime de Damas aurait également causé la mort d'une centaine de civils, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Et puis, si la Syrie ensanglantée est devenue aujourd'hui un terrain de guerre investi par des puissances étrangères, la Turquie d'un côté, soutien des insurgés, et la Russie de l'autre, protectrice de Damas, il est un autre pays qui pourrait à son tour rapidement devenir le théâtre d'une guerre par procuration. Ce pays, c'est la Libye, en l'occurrence dans ce conflit qui oppose le gouvernement d'union nationale aux forces du maréchal Haftar. Quand le premier bénéficie de l'appui d'Ankara, le second peut se prévaloir du soutien de Moscou. Et ce matin, la Turquie a confirmé qu'elle allait envoyer des troupes en Libye à la demande de Tripoli. L'aviation israélienne a mené des frappes la nuit dernière sur la bande de Gaza, quelques heures après qu'une roquette eût été tirée depuis l'enclave palestinienne, déclenchant aussitôt une alerte rouge, laquelle a d'ailleurs contraint le Premier ministre Benjamin Netanyahou à être évacué d'un meeting électoral où il menait campagne pour la primaire de son parti. Car c'est aujourd'hui en effet que les membres du Likoud sont appelés à élire leur nouveau chef, c'est-à-dire celui-là même qui aura la lourde tâche de conduire la formation de la droite israélienne aux élections législatives du 2 mars prochain. Frédéric Mettezo, bonjour.
Bonjour à tous.
Vous êtes notre correspondant à Jérusalem. Alors, cette primaire aux airs de référendum sur la personne de Netanyahou verra essentiellement s'opposer d'un côté le Premier ministre, le plus pérenne de l'histoire de l'État hébreu, et puis de l'autre, un député vétéran, lui aussi de la scène politique, encore plus marqué à droite d'ailleurs, notamment sur la question palestinienne, Gideon Saar, bien déterminé à lui ravir le fauteuil. Reste qu'en dépit de ses efforts pour jouer la carte du rassembleur, celui qui fait figure aujourd'hui de principal rival de Bibi, a peu de chance a priori de l'emporter. En revanche, et quel que soit le résultat de cette primaire, Frédéric, eh bien on peut d'ores et déjà présumer que Netanyahou, qui s'est longtemps présenté comme l'unique leader du Likoud, risque d'y perdre des plumes.
Oui Thomas, il y a un risque. Depuis sa création en 1973, le Likoud n'a eu que quatre chefs qui ont tous été premiers ministres, Menachem Begin, Yitzhak Shamir, Ariel Sharon et donc Benjamin Netanyahou. Quatre chefs en 46 ans, c'est dire que le parti est légaliste et loyaliste. Malgré tout, il y a eu régulièrement des primaires, mais pas dans les dernières années. Bibi, comme tout le monde l'appelle ici, n'a pas eu à en passer par là depuis 2014. Il avait alors obtenu 85% des voix, et depuis, rien. Le simple fait qu'un député ose se mesurer à lui, eh bien ça change le paysage à droite. Gideon Saar a été son ministre de l'éducation et de l'intérieur. Il estime qu'il a longtemps été loyal envers Bibi Netanyahou, mais que ce dernier l'a bien mal récompensé. D'autres personnalités de droite, comme Avigdor Lieberman, ont fini aussi par se fâcher avec le Premier ministre, qui doit donc passer pour un ingrat. Gideon Saar est le premier à se rebeller contre Bibi Ameller, le roi Bibi au pouvoir depuis plus de 10 ans et qui semble indéboulonnable. Bibi qui aime tant s'afficher avec Trump, Poutine, Modi ou Bolsonaro. Si Netanyahou est battu, ce sera un séisme politique, mais s'il est désigné chef du Likoud avec moins de 75% des voix, ce sera quand même un échec relatif pour lui.
Merci Frédéric Mettezo en direct de Jérusalem. Le Burkina Faso en deuil après la pire attaque terroriste perpétrée depuis 5 ans, c'était avant-hier, n'avait pas encore fini de rendre hommage aux 42 personnes décédées qu'une nouvelle offensive est venue noircir la longue liste des victimes du péril djihadiste. Une dizaine de militaires ont péri hier soir dans une embuscade. Nathalie Hernandez, bonjour.
Bonjour.
Alors peu avant cette nouvelle attaque sanglante, le Burkina avait reçu hier plusieurs messages de solidarité, dont celui du pape. Malheureusement, toutes ces pensées, aussi sincères soient-elles, ont peu de chance d'enrayer la spirale de la violence qui a déferlé depuis quelques années déjà au Burkina, mais aussi chez ses voisins sahéliens, Mali, Niger, Tchad, d'où les regards qui se tournent désormais vers la France, et notamment le sommet prévu le 13 janvier à Pau pour redéfinir des objectifs à la fois militaires, politiques, mais aussi de développement. Que peut-on attendre, Nathalie, de cette rencontre ?
Nous sommes à un tournant de cette guerre, a déclaré le président français lors de son déplacement en Côte d'Ivoire il y a quelques jours, et ce sommet doit en effet clarifier la position de chacun au sein du G5 Sahel. En premier lieu, la France a besoin de savoir qui la soutient au Sahel et qui dénonce sans ambiguïté la vague de sentiments anti-français dans la région. Cette demande vise en particulier le Malien Ibeka, Ibrahim Boubacar Keïta et le Burkinabé Roch Marc-Christian Kabore qui n'ont pas assez fermement condamné aux yeux de Paris cette campagne anti-Barkhane. On verra ce qu'il en sera le 13 janvier prochain lors du sommet. Le président français attend ensuite une mobilisation internationale pour que le Sahel et la France ne soient plus seuls dans ce combat contre le terrorisme, à la fois sur le plan militaire et dans l'aide au développement. Un appel en direction des Européens qui, s'ils ne s'engagent pas, prévient Emmanuel Macron, ils auront, je cite, à faire cette guerre sur leur territoire. Cela devrait passer par une accélération des contributions au G5 Sahel. Dans une récente interview au Monde, le président mauritanien estime que la force conjointe n'a pas eu ce qui lui avait été promis, que le financement et l'arrivée de matériel n'arrivent qu'au compte-goutte. Enfin, il reste une incertitude de taille, le départ ou non des Américains du Sahel. Washington envisage de retirer ses 7000 soldats d'Afrique. ce qui serait alors un coup dur pour les Français, les États-Unis étant un allié précieux en matière de renseignement dans la région.
Merci Nathalie Hernandez. Alors je l'évoquais tout à l'heure dans son traditionnel discours de Noël, Urbi et Orbi, le pape François a égrené hier la longue liste des endroits du globe frappés par les guerres et les affrontements, dénonçant notamment les agissements des groupes extrémistes sur le continent africain. Et puis, tout en s'érigeant contre les ténèbres du monde, le souverain pontife a également réclamé la protection des personnes forcées d'émigrer dans l'espoir d'une vie meilleure et qui se retrouvent face à des murs d'indifférence partout dans le monde. Or, à ce titre, voilà qu'un nouveau débat autour de la question des réfugiés a vu le jour en Allemagne après que le chef des Verts a réclamé, c'était la veille de Noël, que son pays accueille quelque 4000 enfants isolés en déshérence dans un camp pour migrants en Grèce. Les précisions de Nathalie Versieux.
L'Allemagne fait-elle assez pour les réfugiés ? Telle est la teneur du débat autour de l'accueil de 4000 mineurs isolés lancé par le chef des Verts, Robert Habeck, soutenu par les Églises. Un débat malvenu pour le ministre de l'Intérieur, pour Horst Seehofer, un cavalier seul de l'Allemagne serait irresponsable, provoquerait une nouvelle vague de départ en provenance d'Afghanistan ou du Pakistan aux conséquences imprévisibles. L'Allemagne, assure le ministre, offre une aide massive dans les camps grecs et aurait de toute façon promis au commissariat des Nations Unies pour les réfugiés d'accueillir l'année prochaine 5500 personnes, des mineurs mais aussi des femmes enceintes ou des personnes malades. Le débat ressurgit alors que 40 000 personnes vivent dans des conditions critiques dans les camps pour réfugiés sur les îles grecques, dont 14 000 mineurs, et que la Commission européenne demande aux États membres de faire plus pour aider la Grèce.
Toujours en Allemagne, les ennuis semblent s'accumuler pour BMW. Le constructeur fait désormais l'objet d'une enquête du gendarme boursier américain pour manipulation de ses chiffres de vente aux États-Unis. En clair, BMW est soupçonné d'avoir embelli ses chiffres. Hakim Kasmi, bonjour.
Bonjour Thomas Cluzel.
Alors ça n'est pas là la seule affaire qui touche aujourd'hui le constructeur allemand, puisqu'en Europe, Bruxelles soupçonne BMW de s'être entendu avec ses concurrents pour ralentir le développement de technologies antipolluantes. Mais s'agissant donc, Hakim, de cette enquête américaine, c'est évidemment un nouveau coup dur sur fond qui plus est de guerre commerciale.
Oui, le constructeur allemand comptait dans ses résultats des véhicules qui n'étaient pas vendus ni à des particuliers ni à des entreprises. Ces voitures neuves étaient tout simplement stockées sur ses parkings et servaient par exemple de véhicules de remplacement lorsqu'un client avait sa voiture en révision. Cette pratique, appelée punching, est très connue chez les constructeurs pour doper les résultats, a pu induire en erreur les investisseurs lors de la publication des résultats de BMW. Un nouveau coup dur pour le constructeur bavarois qui subit déjà de plein fouet la crise commerciale entre les États-Unis et la Chine, puisque les droits de douane imposés sur l'acier et l'aluminium lui ont déjà fait perdre des dizaines de millions de dollars sur ses sites de production aux États-Unis. Et ce n'est pas terminé pour BMW, car en Europe, le constructeur est soupçonné par Bruxelles d'entente avec ses principaux concurrents allemands, le groupe Daimler, qui détient par exemple Mercedes, mais aussi Volkswagen, sur le ralentissement des normes anti-pollution, des nouvelles normes qui vont entrer en vigueur à partir de 2021, avec pas plus de 95 grammes de CO2 par kilomètre, pour lesquelles les grosses berlines allemandes très polluantes ne sont pas toutes encore prêtes. De telle sorte que BMW a déjà provisionné 1,4 milliard d'euros pour d'éventuelles amendes, des amende qui pourrait même atteindre les 3 milliards d'euros si le constructeur allemand n'intensifie pas sa stratégie d'électrification de ses véhicules d'ici là.
Merci Hakim Kasmi. Le ministre italien de l'Éducation a annoncé ce matin sa démission, faute d'avoir obtenu du gouvernement les crédits nécessaires, selon lui, pour améliorer la situation des écoles et des universités. Un coup dur donc pour la coalition gouvernementale formée par le centre-gauche et le mouvement 5 étoiles et qui, après 4 mois passés au pouvoir, montre déjà des dissensions sur plusieurs dossiers. Ce jeudi débute en France une quatrième semaine sans trêve dans le mouvement contre la réforme des retraites. 4 lignes de métro restent totalement fermées à Paris contre 5 initialement prévues. Par ailleurs, et conformément cette fois-ci aux prévisions, 1 RER sur 2 circule sur la ligne A ainsi qu'un sur 3 sur la B en heure de pointe. Enfin, le trafic est quasi normal pour les tramways parisiens tandis que 2 bus sur 3 circulent dans la capitale. Et puis cette 22e journée de grève contre la réforme des retraites perturbe également le trafic à la SNCF avec en moyenne un TGV sur 2 en circulation, un Transilien sur 5 et 4 TER sur 10. Présenté il y a un an en Conseil des ministres, alors qu'émergeait tout juste le mouvement des Gilets jaunes, la loi L'Homme se voulait, selon la majorité, une réponse au sentiment d'abandon dans certains territoires. Et 12 mois plus tard, sans véritablement convaincre les oppositions, cette loi d'orientation des mobilités a tout de même été adoptée par le Parlement, c'était le mois dernier, et ce matin, elle a donc été définitivement promulguée au Journal officiel. Catherine Pétillon, bonjour.
Bonjour.
Alors cette loi entend améliorer les déplacements au quotidien des Français, tout en intégrant l'enjeu environnemental. Concrètement, quelles sont les mesures prévues par ce texte, Catherine ?
Bien, elles sont nombreuses. Cette loi touffue comporte 189 articles avec pour objectif affiché des transports du quotidien à la fois plus faciles, moins coûteux et plus propres. Autrement dit, sortir de la voiture et accélérer la croissance des autres formes de mobilité. Parmi les mesures, disons environnementales, citons l'objectif d'arrêter la vente des véhicules à carburant fossile, c'est-à-dire essence ou diesel, d'ici 2040. Le texte encourage aussi l'usage des voitures électriques et du vélo. Nouveauté avec ce texte, la mise en place d'un forfait mobilité. Il doit permettre aux employeurs de verser jusqu'à 400 euros par an à leurs salariés se rendant au travail en covoiturage ou en vélo. Peut-être verra-t-on aussi apparaître un début de régulation des trottinettes, vélos ou gyropodes en libre-service. En tout cas, les collectivités pourront désormais imposer un cahier des charges aux opérateurs concernant par exemple l'information des usagers, le port du casque ou encore les règles de stationnement. Et puis souvenez-vous de la limitation à 80 km/h sur les routes secondaires, très décriée notamment par les Gilets jaunes. Elle a fait l'objet de longs débats au Parlement et au final, le texte encadre l'assouplissement de ces 80 km/h promis par Emmanuel Macron au moment du grand débat. Et désormais, le choix de repasser à 90 km/h sera de la responsabilité des élus locaux. À noter néanmoins que le Conseil constitutionnel a censuré quelques articles comme celui concernant les livreurs et chauffeurs des plateformes type Uber ou Deliveroo. Ces dernières pourront édicter des chartes sociales pour leurs travailleurs mais ne bénéficieront pas pour autant de la protection juridique que voulait initialement leur accorder le gouvernement. C'est donc toujours au juge qu'il appartiendra de décider s'il doit obliger les entreprises à requalifier en ses relations de travail en salariat. Une nouvelle salue par les collectifs de livreurs alors que de nombreuses procédures judiciaires sont en cours.
Merci Catherine Pétillon. Enfin, on vient de l'apprendre. J'ajoute que le gouvernement vient de repousser au 1er avril l'entrée en vigueur de la réforme des APL, annonce faite ce matin donc par le ministre du Logement, Julien de Normandie. Comme chaque jeudi à présent, l'invité politique de la rédaction aujourd'hui, Jean Messia, membre du Bureau national du Rassemblement national, délégué aux études et à l'argumentaire. Bonjour monsieur.
Oui, bonjour monsieur.
Et à mes côtés pour vous interroger, Stéphane Robert. Bonjour Stéphane.
Bonjour.
Première question, monsieur Messia, vous étiez porté candidat pour les municipales à Paris avant que votre formation, le Rassemblement National, ne décide finalement d'investir un candidat extérieur au parti. Pour autant, il semble que vous ayez été annoncé comme candidat dans un arrondissement de la capitale. Est-ce que vous pouvez tout d'abord nous le confirmer et si oui, nous préciser lequel ?
Non, il s'agit de rumeurs absolument infondées. Je ne suis pas candidat dans un arrondissement à Paris. Ça, c'est pour répondre à votre deuxième question. Pour répondre à la première question, vous savez, une investiture, c'est toujours un cocktail de plusieurs motivations qui sont à la fois financières, politiques, etc. Et effectivement, la commission d'investiture et le bureau exécutif du mouvement, sur des considérations liées à la fois au budget du parti, aux finances du parti qui sont... assez difficile en ce moment, mais aussi à la volonté d'ouverture, d'alliance, etc., eh bien, a choisi de se faire représenter à Paris par un candidat d'ouverture. Voilà, j'ai pas plus de commentaires à faire que ça. Moi, j'étais candidat à la pré-candidature, mais j'accepte et je suis le mouvement en quelque sorte.
Et est-ce que monsieur Messier, est-ce que ça ne dit pas vous révisez un petit peu vos ambitions à la baisse dans les grandes villes et que vous avez une difficulté d'implantation dans les grandes villes?
Ben écoutez, oui et non. D'abord, j'aimerais qu'on définisse ce qu'est une grande ville. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que la réalité, c'est que nous avons des candidats dans l'ensemble des grandes villes, à Lyon, par exemple, dont la liste qui est conduite par Agnès Marion et Andrea Cotarac, l'ancien de la France Insoumise, se promet de beaux scores. Non, je crois que, vous savez, la politique, c'est un travail de longue haleine. Hein. Combien de territoires en France, il y a une vingtaine d'années, ne votaient absolument pas Rassemblement National, et grâce au travail de terrain, de nos militants, de nos adhérents, puis de nos élus, eh bien, les gens ont commencé progressivement à ouvrir les yeux, parce que nous sommes Nous ne faisons pas de la politique pour faire de la politique. Notre mission en tant que parti politique, et peut-être c'est ça qui nous distingue de nos adversaires et de nos opposants politiques, c'est que nous disons la vérité aux Français, c'est-à-dire que nous mettons des mots MOTS sur leurs mots MAUX. Et donc effectivement, les Français ouvrent les yeux progressivement parce que la réalité telle que nous la décrivons, le diagnostic tel que nous le faisons, correspond à ce que eux-mêmes font sur le terrain dans leur vie de tous les jours. Et c'est ça qui explique qu'il y a ensuite une traduction politique. Et donc, si vous voulez, c'est pas one shot, c'est pas un coup, c'est pas on va à une élection, on n'a pas d'élu et donc on abandonne. Non, c'est un travail de terrain qui finit par porter ses fruits, parfois plusieurs mois, parfois plusieurs années, mais c'est vraiment la persévérance qui finit par payer, comme on le voit, encore une fois, dans énormément de territoires et de régions qui ne votaient pas du tout au Rassemblement national et où aujourd'hui il y a plusieurs centaines d'élus.
Est-ce que vous avez fixé des objectifs pour ces municipales? Un certain nombre de villes dans lesquelles vous pouvez avoir des espoirs de conquête légitime?
Écoutez, nous ne sommes pas dans une vision ni de comptabilité, ni de performance au sens financier du terme. En politique, on a toujours l'objectif le plus élevé, que ce soit au niveau du score, au niveau du nombre de villes. Mais si je dois répondre de manière un peu plus qualitative à votre question, nous avons effectivement un double objectif. Bon, le premier, il saute aux yeux de tout le monde, c'est de conquérir le maximum de villes possible. Et nous avons pour cela une légitimité, puisque nous administrons depuis 2014 13 communes, dont le moins qu'on puisse dire est qu'elles sont bien gérées, bien administrées. Leurs maires sont régulièrement plébiscités par les administrés grâce à des enquêtes extérieures. Et donc, effectivement, nous comptons en faire une vitrine de ce qu'est l'administration communale du Rassemblement national. Et avec pour slogan, oui, il fait bon vivre dans une ville administrée par le Rassemblement national. Après, si vous voulez, le deuxième objectif, c'est effectivement même les villes où nous ne pourrons pas avoir de maire Rassemblement national. L'idée, c'est de faire progresser le nombre d'élus municipaux. C'est-à-dire que soit il y a déjà un certain nombre d'élus municipaux qu'il va falloir augmenter, soit il n'y a pas du tout d'élus municipaux, et dans lequel cas l'objectif est de faire rentrer des élus au Rassemblement national dans les conseils municipaux. Donc en fait, c'est une élection à plusieurs objectifs. Un objectif principal qui est de conquérir le maximum de mairies, mais un objectif, secondaire, mais tout aussi important, qui est celui d'accroître globalement le nombre d'élus municipaux, parce que le terreau de ces élus municipaux constitue les victoires électorales de demain, que ce soit dans des scrutins territoriaux et dans des scrutins bien sûr nationaux.
Pour ce qui concerne le conflit autour de la réforme des retraites, on a vu Marine Le Pen apporter son soutien aux grévistes et elle a même lancé un appel à manifester, ce qui constitue une nouveauté pour le Rassemblement national. Est-ce qu'il y a ou pas, selon vous, un problème de cohérence? Et s'agit-il pour votre formation politique d'essayer de ravir à la gauche sa prééminence historique dans la gestion des conflits sociaux?
Non, pas du tout. Je crois que, comme disait le général de Gaulle, il n'est de politique que de circonstances. Et c'est vrai que les circonstances actuelles de la France ne sont pas les circonstances d'il y a 10 ans ou 15 ans. Enfin, le pays va quand même très mal. On sort à peine d'une séquence d'explosion sociale des Gilets jaunes pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, qui est assez inédite dans l'histoire sociale française. Là, les syndicats et le mouvement social traditionnel, si je puis dire, reprend le relais. On voit bien quand même que globalement, depuis maintenant plus d'un an, il y a une colère sociale, un volcan social qui s'exprime de diverses façons. Donc nous sommes un mouvement politique, le premier parti de France. Il est tout à fait normal que Marine Le Pen, peut-être plus que quelqu'un d'autre, je dirais, prenne conscience, enfin en tout cas, voit ce qui se passe dans le pays. Donc nous, peu importe les moyens avec lesquels on exprime le refus de la politique du gouvernement, ce qui compte, c'est de l'exprimer. Donc là, il se trouve que effectivement, les gens descendent dans la rue, et c'est d'ailleurs pas uniquement les syndicats, puisque vous savez que les syndicats ne représentent pas beaucoup de salariés. En France, c'est une représentation des salariés qui est assez faible, mais traditionnellement en France, les syndicats rassemblent beaucoup plus que leurs propres membres. Et donc nous faisons partie de ceux qui refusent la politique du gouvernement, quels que soient les moyens d'expression de ce refus, nous les soutenons. Mais ce qu'il faut retenir, c'est pas que nous soutenons un moyen, c'est que nous soutenons une politique, la politique du gouvernement. C'est ça qui est au cœur du débat.
Merci Jean Messia, membre, je le rappelle, du Bureau national du RN, délégué aux études et à l'argumentaire, d'avoir répondu à notre invitation. Et merci également à Stéphane Robert. On termine avec un mot du temps pour cet après-midi. Globalement, gris au nord, marqué par une perturbation faiblement pluvieuse sur la Bourgogne-Franche-Comté et le Grand Est. Sur la moitié sud, le ciel hésitera entre nuages et éclaircies. Quant aux températures, elles afficheront entre 6 et 14 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par François-Charles Domergue. Et à 18h, vous avez rendez-vous avec Thomas Larabie pour le prochain journal de la rédaction.